à tous et bienvenue dans la grande table. Dans la deuxième partie de l'émission, La République, avenir de l'Europe, proposition originale, même si un peu utopiste, de notre invité Jean-François Bitter. Sur quelle base la constituer, à partir de quelle tradition politique pouvons-nous l'imaginer? Nous en parlerons avec lui à partir de 12h55. Il est sinologue et philosophe et il signe actuellement un court essai chez Alia Édition, Demain l'Europe. Mais d'abord, François-Xavier Roth, berliozissimo avec son ensemble Les Siècles. Le chef d'orchestre sera ce week-end à la Philharmonie de Paris dans le cadre d'un week-end Berlioz donné à l'occasion des 150 ans de la mort du compositeur français de la Symphonie Fantastique. Son disque Harold en Italie, Les Nuits d'été, sortira chez Harmonia Mundi la semaine prochaine. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, François-Xavier Roth est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour François-Xavier Roth.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. De Cologne à Londres, à Paris, vous continuez à courir d'une ville ou d'une capitale à l'autre. Mais après quoi courez-vous aujourd'hui encore?
Courir pour faire de la musique, c'est très sain. Alors on peut toujours dire que effectivement c'est pas très bon pour l'environnement de prendre trop souvent l'avion. Mais je crois que j'ai un privilège extraordinaire, c'est de partager la musique avec des orchestres et des publics très différents, avec des cultures, on est sur France Culture, des cultures de perception de la musique qui sont vraiment étonnamment diverses encore aujourd'hui, et de pouvoir partager cette musique et ces musiques, ces différentes musiques, c'est pour moi un privilège extraordinaire.
Et ce partage musical, s'il n'est pas bon pour l'environnement, il est bon pour quoi? Pour le tempérament? Pour les émotions?
Non, je crois tout simplement que c'est peut-être extrêmement naïf de dire ça, mais l'échange culturel entre les différents pays, les différentes régions du monde, c'est peut-être la garantie de la paix. C'est en tout cas une certaine garantie de faire confiance à l'intelligence des hommes. Et pour moi, je me sens vraiment très chanceux de pouvoir, faire quelquefois découvrir des musiques que ne connaissent pas ou pas assez bien certaines villes, certaines nations dans le monde, et simplement de pouvoir, la musique, c'est peut-être l'art le plus direct qui permet la compréhension des uns par rapport aux autres.
Et alors, elle se pratique différemment, la musique, d'un pays à l'autre, quand vous êtes à Cologne avec l'orchestre du Gürsönnik, quand vous êtes à Londres ou quand vous êtes à Paris avec votre ensemble, Les Siècles, vous pratiquez plutôt des compositeurs de chaque nationalité. D'ailleurs, ce week-end, on vous retrouvera à la Philharmonie pour un week-end spécial Berlioz. D'un pays à l'autre, vous avez le sentiment que la musique se pratique différemment?
Ah oui. Non seulement qu'elle se pratique, mais aussi la place qu'elle occupe dans la vie des gens. Ça, c'est ça, pour moi, le plus important. C'est-à-dire qu'on a des régions du monde. Alors, j'ai la chance de beaucoup travailler en Allemagne. Vous avez cité Cologne, oui. Je suis directeur de la musique de la ville de Cologne et ça, c'est une grande joie de pouvoir faire de la musique là-bas. En Allemagne, il y a une tradition que la musique fait partie de la vie, mais vraiment de manière très, très ancrée, beaucoup plus, par exemple, que dans des pays latins comme la France, où la musique a toujours été une sorte de contrepoint de quelque chose qui est important mais qui n'est pas central, aussi bien dans l'éducation que dans la vie simplement des gens. Et puis il y a des zones du monde, par exemple je vais aussi très régulièrement en Asie ou aux États-Unis d'Amérique, où la musique a encore un tout autre sens dans la vie des gens. Quand on parle des pays scandinaves aussi, je me souviens encore de cet exemple à Helsinki quand ils ont fait cette nouvelle salle de concert, et puis ils ont inventé pour tous les enfants ou les bébés qui sont nés comme la même année que la salle de concert, de faire des concerts pour les bébés, par exemple, le matin, qui duraient une demi-heure ou 20 minutes. Des initiatives, quelquefois, qui sont plus spontanées, plus fraîches que dans nos vieux pays de la vieille Europe.
Et à Londres, vous êtes l'un des chefs invités du London Symphony Orchestra, où vous avez connu l'altiste avec laquelle vous travaillez pour cet album qui paraît chez Harmonia Mundi et qui est consacré notamment au Harold de Berlioz.
Oui, Tabea Zimmermann, je ne sais pas si je l'ai rencontrée à Londres, mais enfin, ça fait très longtemps que je la connais.
D'autant qu'elle est allemande.
Voilà, exactement. Et elle vit à Berlin. Mais c'est une extraordinaire artiste qui partage son art enfin, de manière vraiment unique. C'est quelqu'un qui, vous savez, en musique classique, on a souvent des solistes qui viennent jouer leur concerto devant l'orchestre et qui partagent relativement peu, finalement, avec le chef ou avec l'orchestre. Elle, c'est tout le contraire. C'est une artiste qui aime faire un travail collectif et elle a pris un grand risque, c'est-à-dire que comme nous jouons avec les siècles les œuvres sur les instruments de chaque époque, eh bien elle a décidé comme ça de mettre des cordes en boyau comme c'était d'usage au temps de Berlioz sur son instrument et de changer aussi sa manière de projeter le son. Et on a aujourd'hui ce témoignage de ce disque qui fait suite à une tournée de concerts.
À la Philharmonie, ce week-end, François-Xavier Roth, vous allez donc retrouver votre compositeur fétiche, Berlioz. Vous êtes d'ailleurs un des seuls à vouloir le faire entrer au Panthéon de haute lutte. Vous y parviendrez peut-être un jour. Après une petite fugue, l'alto entre enfin en scène. On va écouter tout de suite un extrait du premier mouvement de Harold en Italie. Ce mouvement s'appelle Harold aux montagnes et on en reparle. De l'ouverture de cette symphonie avec un alto principal en quatre parties, Harold en Italie, que l'on retrouve aux côtés des Nuits d'été de Berlioz, toujours sur cet album que vous avez enregistré et qui paraîtra la semaine prochaine chez Harmonia Mundi et qui sera surtout au programme dans son intégralité de la soirée du concert Berlioz que vous allez donner à la Philharmonie de Paris le 11 janvier, c'est-à-dire vendredi soir à 20h30 avec votre ensemble Les Siècles, François-Xavier Roth. Alors cette pièce, cette symphonie, Harold en Italie, venons-y, composée en 1834, elle a une histoire assez originale. Elle est le fruit d'une commande d'un célèbre violoniste italien, Paganini, qui, charmé par la symphonie fantastique de Berlioz, lui demande une œuvre pour lui tout seul presque, hein, pour alto solo, parce qu'il est aussi altiste, Paganini. Il lui fallait une musique à la hauteur, disait-il, de son instrument et notamment de son Stradivarius. Sauf que Berlioz va combiner dans ses esquisses de symphonie l'alto avec un orchestre et ça va pas plaire à Paganini qui va repartir bredouille sans son concerto d'alto, laissant Berlioz à ses rêveries musicales. Paganini, finalement, il ne l'a jamais interprété, cette symphonie ?
Non, et c'est vraiment tout Berlioz. C'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même que du temps de Paganini ou de Berlioz, la musique, même encore aujourd'hui, peut être empreinte d'un immense conservatisme. Et notamment pour les formes. C'est-à-dire, on se dit, ben voilà, une symphonie, ça doit être une œuvre d'orchestre avec des codes, avec une certaine structure. Et quand un soliste demande à un compositeur un concerto, eh bien Paganini pouvait vraiment légitimement penser que l'œuvre allait comporter un certain nombre de codes qui allaient le mettre comme ça en avant, en lumière par rapport à l'orchestre. Et c'est tout Berlioz parce que Berlioz, vulgairement, ça le gonfle. C'est-à-dire que lui n'est jamais intéressé. Au contraire, il a même comme une sorte de rejet des codes et de l'académisme. Et toute sa vie durant de musicien, il n'a eu de cesse comme ça que d'inventer ce que finalement pouvait être la musique du futur, la musique, et pas seulement dans ses formes, mais je dirais même dans son impact expressif, dans ce qu'elle pourrait changer de l'homme. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important et de hautement, bien sûr, romantique. C'est un geste extrêmement romantique. Et donc, Harold en Italie, ce n'est pas un concerto, ce n'est pas une symphonie, c'est un espèce d'objet musical non identifié, comme sont toutes les œuvres de Berlioz. Et quand on fait ce constat-là, on fait aussi le constat que finalement, il a fait lui-même beaucoup pour être si mal compris de son vivant. Et encore après, on dit souvent qu'en France, on a du mal à comprendre la musique de Berlioz. Et ben oui, il a participé beaucoup lui-même à ça, en luttant et en essayant d'inventer cette musique utopique qui n'existait pas à l'époque.
Mais il y a une autre raison à cela qu'il raconte dans ses mémoires, c'est qu'il ne jouait pas lui-même de l'alto et donc il se sentait pas quelque part d'écrire ce concerto, ce solo d'alto, et il y a ramené l'orchestre accompagné comme tel. Alors l'histoire se termine assez bien, c'est que finalement Paganini va quand même assister à une représentation d'Harold en Italie et il va l'adorer, reconnaissant, consacrant Berlioz, et Berlioz là encore raconte la scène dans ses mémoires, d'un Paganini à genoux, le félicitant pour cette symphonie, et Berlioz disant qu'il était encore tout étourdi par cette reconnaissance tardive, néanmoins, de Paganini. Est-ce que c'est pas ça aussi qui vous rapproche, vous, de ce compositeur, de Berlioz, que vous aimez tant? Parce que dans cette symphonie, on le dit, il choisit de ne pas favoriser l'alto, et vous aussi, dans votre vie, vous n'avez jamais favorisé un instrument. Hein. Le chef d'orchestre, c'est celui qui maîtrise presque tous les instruments, et vous n'en avez jamais privilégié aucun.
Oui, c'est un joli parallèle. C'est-à-dire que je les aime tous, les instruments de musique. Berlioz aussi était cet incroyable écrivain qui a notamment produit ce traité d'instrumentation où il explique le rôle et la singularité de chaque instrument de l'orchestre. Ça, c'est un ouvrage aussi absolument extraordinaire, toujours d'actualité aujourd'hui d'ailleurs. Et je crois que oui, on peut même se reconnaître beaucoup dans Berlioz à plein de niveaux. Je crois que Berlioz serait un extraordinaire gilet jaune aujourd'hui. Parce que c'était quelqu'un qui était tellement intéressé aussi de la condition humaine. Je crois que voilà, c'est un musicien qui peut nous irriter aussi bien dans sa musique que dans ses écrits, mais qui aussi est tellement touchant parce qu'il est amoureux de tout. Il est amoureux de l'amour, de la vie, et surtout de ce que la musique peut, je crois, changer l'homme.
Alors c'est intéressant, si vous allez sur son tempérament, Berlioz se considérait comme un compositeur classique. Il aurait dit dans sa correspondance, étant classique, je vis souvent avec les dieux, quelquefois avec les brigands et les démons, jamais avec les singes. Par classique, j'entends un art jeune, vigoureux et sincère, réfléchi, passionné, aimant les belles formes, parfaitement libre, tout ce qui a été fait de grand, de hardi, citant alors Gluck, Beethoven ou Shakespeare. Le compositeur et chef d'orchestre Pierre Boulez le compare sur ce sujet à l'allemand Richard Wagner, écoutez.
Ce sont des hommes réalistes, très réalistes même tous les deux, qui donc se préoccupaient, par rapport à leur époque, des conditions d'exécution de leur époque. Ce qui est nouveau, parce qu'auparavant, on s'accommodait plus ou moins des lieux où l'on était, et il n'y a pas vraiment de dispositif qu'on puisse imaginer très précis. Mais avec Berlioz et Wagner, certainement, les dispositifs scéniques, théâtraux, je dirais presque, sont des dispositifs auxquels ils prêtent une grande attention. Et dans Berlioz en particulier, si on voit la création de l'Hélio, qui est la suite de la Symphonie Fantastique, ce mélodrame avec acteurs, l'orchestre d'abord dissimulé jusqu'à la dernière pièce qui est d'après La Tempête du reste, et qui est jouée alors comme un concert. Mais avant, ce sont les rêves d'un compositeur, et il imagine l'orchestre invisible, ce qu'a fait depuis Stockhausen. Oui. C'est-à-dire qu'il mettait en avant tout le côté dramatique de l'histoire. Mm-hmm. C'est très curieux de voir du reste que l'imagination de Berlioz dans ses œuvres symphoniques, l'imagination théâtrale de Berlioz dans ses œuvres symphoniques, est beaucoup plus forte que son imagination théâtrale dans les œuvres de théâtre.
Alors vous avez peut-être envie, François-Xavier Rau, de revenir sur cette question de la théâtralité des œuvres de Berlioz, mais il y a aussi ce réalisme dont se prévaut ou que lui attribue Pierre Boulez et qui nous rapproche de ce que vous évoquiez à l'instant sur le tempérament, le caractère du compositeur. Hein.
Oui, je crois que c'est très intéressant et émouvant d'entendre Pierre Boulez qui évoque Berlioz. Moi, j'en avais souvent parlé aussi avec lui. Il avait une image encore de sa musique. Par exemple, quand il évoque l'opéra, moi, je crois au contraire de Boulez que Berlioz est un immense compositeur d'opéra, mais qui malheureusement, avec à la suite des échecs qu'il a pu connaître dans sa vie de compositeur de théâtre, eh bien, ça l'a un peu cassé. Et on n'a pas assez d'ouvrages lyriques de Berlioz. Mais c'est vrai que c'était un moderne, et c'est drôle qu'il se définit lui-même comme un classique. C'était un ultra moderne. Et le simple fait que, oui, ces formes qu'il invente, par exemple, Harold en Italie qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi tant d'autres choses, Roméo et Juliette, par exemple, cette symphonie dramatique absolument extraordinaire qui n'a encore aujourd'hui aucun équivalent, ou alors peut-être des symphonies de Mahler avec chœur et soliste, enfin des objets comme ça musicaux totalement futuristes au moment où il les écrit. Je crois que c'est un compositeur qui toujours aujourd'hui nous stimule, en tout cas nous les musiciens et le public, je crois aussi, dans notre manière de vivre le fait musical. J'étais hier par exemple avec un des plus grands compositeurs vivants d'aujourd'hui, Helmut Lachenmann, et de répéter avec cet immense compositeur, ça m'a aussi d'une certaine manière rappelé que Berlioz devait être une sorte d'exigeant compositeur terrible avec les orchestres qu'il a pu faire travailler. Quand je vis ces moments-là avec des compositeurs d'aujourd'hui, je me remets aussi dans cette situation-là. Et c'est vrai que j'aurais adoré rencontrer ce personnage.
Mais d'ailleurs, si on reprend Harold en Italie, il l'a lui-même longtemps dirigé.
Oui.
Est-ce que vous vous êtes inspiré de cette direction, des indications qu'il a pu donner à ce moment-là?
Alors, Berlioz, c'est un des premiers qui donne des indications écrites au chef d'orchestre comment travailler certains passages. Et ça, c'était quelque chose qui n'était absolument pas d'usage, et c'était totalement exotique de pouvoir marquer ça sur une partition. Mais on n'a pas de témoignage, plus précis des gestes ou des... Mais c'est très drôle parce que lui-même décrit un de ses chefs préférés à l'époque, parce que le métier de chef d'orchestre commençait tout juste, et c'était Habeneck, et il disait, ah oui, c'est un de ceux qui fait le moins de bruit en tapant la mesure. Donc ça veut dire qu'à l'époque de Berlioz encore, celui qui dirigeait, c'était celui qui battait essentiellement pour donner à entendre la pulsation de la musique.
Et vous, comment vous battez la mesure, hein?
Ah ben moi, je la bats sans bruit, parce que ce serait... On pourrait pas supporter ça aujourd'hui, mais je sais pas, ça c'est difficile pour moi de dire, mais en tout cas, j'essaye de rendre toute cette verve à cette musique absolument incroyable, que trop souvent aussi on a décrite comme une musique qui était excessive. Moi j'adore les excès de Berlioz.
Alors cette composition, cette symphonie à Harold en Italie, est une composition très poétique, inspirée de ses balades à lui dans les Abruzzes en Italie et d'un poème de Lord Byron. Quel contraste avec la symphonie fantastique, son œuvre peut-être la plus connue et la plus jouée. On en écoute un extrait et vous nous dites après, si vous le voulez bien, François-Xavier Roth. Extrait de la symphonie fantastique de Berlioz que vous avez dirigé avec votre ensemble Les Siècles, François-Xavier Roth, et c'est d'ailleurs un extrait de cet enregistrement réalisé en 2010 avec Harmonia Mundi et Actes Sud. Alors en quoi, si l'on compare cette symphonie fantastique à Harold en Italie, qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui fait la particularité d'Harold en Italie?
Je crois que ça va certainement être l'histoire qu'il prend, qu'il raconte, et cette incarnation du personnage d'Harold avec l'alto principal, la musique. Mais vous savez, c'est ça le problème avec Berlioz, c'est comme tous ces immenses compositeurs, il ne se répète jamais. Il n'est pas intéressé d'écrire la même musique. Quelquefois, il va utiliser des matériaux, des idées, des thèmes, voilà, sur plusieurs œuvres, mais c'est un compositeur qui se renouvelle à chaque œuvre.
Donc, et qui innove. Vous le disiez tout à l'heure, on a du mal à savoir si c'est vraiment un poème symphonique, une symphonie, un concerto. Il brouille les genres musicaux aussi.
Voilà, hein. C'est comme bien des années après avec Richard Strauss qui va faire Don Quichotte pour un violoncelle principal. Ben, c'est la même chose avec Harold. C'est une espèce de pièce de théâtre musical avec un protagoniste qui joue, qui s'en va, qui revient, l'orchestre qui a des éruptions et puis tout d'un coup une sorte de calme incroyable. La fantastique, c'est une histoire qu'il raconte sur un texte. Harold en Italie, ce sont des tableaux et c'est une sorte comme ça, oui, de fresque romantique absolument inédite.
Alors la symphonie fantastique avait son idée fixe. Ici, vous l'évoquiez, la symphonie Harold en Italie à son alto qui est presque le narrateur en fait hein, de cette pérégrination. Le narrateur, parce que à travers ce thème principal, on comprend, on suit l'histoire de ce personnage mélodique et mélancolique. Et c'est intéressant de se dire que Berlioz s'est inspiré d'un texte, d'une poésie du pèlerinage de Childe Harold de Lord Byron pour composer cette symphonie. C'est une œuvre symphonique en quatre mouvements et je vous propose qu'on parte vite écouter un extrait du troisième mouvement, la sérénade d'un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse. De la symphonie Harold en Italie avec l'altiste allemande Tabea Zimmermann et votre ensemble Les Siècles, une interprétation sur instruments anciens. Les Siècles, qui est un ensemble que vous avez fondé, créé en 2003. Ce projet a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, il rencontre un succès important. Les instruments anciens, François-Xavier Roth, c'est quoi? C'est une histoire de souffle? C'est une histoire de saveur? Comment vous les défendez aujourd'hui, ces interprétations?
Oh, c'est simplement utiliser les outils qu'avaient à disposition les compositeurs. C'est exactement de se dire, je pense pour un chef cuisinier, ça va être la même chose, de cuisiner des choses avec des ingrédients qui ont une saveur particulière. On mélangerait pas une tomate qui n'a aucun goût avec telle épice, ça ne ferait pas de sens. Et ben c'est la même chose avec les instruments de musique. Quand on voit, quand on entend les instruments qu'ont connus des compositeurs comme Berlioz par exemple, leur particularité, leur poids, leur éloquence, eh bien n'est à comparer avec aucun autre instrument. Donc ça donne finalement une couleur et une manière de dire la musique totalement différente. Et ça, une fois qu'on a goûté à ça, alors je dois dire que c'est très très difficile de s'en passer. Aujourd'hui, je pourrais pas m'en passer. Ça veut pas dire que je ne dirige pas la musique de Berlioz avec d'autres orchestres. Je le fais aussi avec des orchestres à instruments modernes. Mais mon cœur nucléaire, les siècles en musique, c'est vraiment le centre de tout.
Alors, vendredi soir à la Philharmonie, il nous reste une minute pour annoncer et donner le programme. Il y aura trois ouvertures, en plus de cette intégrale d'Harold en Italie, Béatrice et Bénédicte, une ouverture aussi de Benvenuto Cellini, hein, c'est ça
qui est au programme. Tout à fait, c'est toutes les œuvres un peu italiennes de Berlioz.
Voilà, et vous évoquiez aussi ces deux opéras qui ont fait le malheur au départ de Berlioz et qui l'ont fait douter avant qu'il se lance dans cette vaste opéra qui était Les Troyens et qui va d'ailleurs bientôt se donner à l'Opéra de Paris sans vous. Ce sera à partir du 22 janvier, vaste opéra sous une nouvelle production de Dmitri Tcherniakov. De votre côté, vous serez dans le cadre du festival des sommets musicaux de Gstaad, c'est ça prochainement, en concert pour un programme consacré cette fois à Mozart.
Aussi un magnifique compositeur.
Ben dites-nous en plus.
Ben ce sera l'ouverture de ce festival avec mon ami Renaud Capuçon, Gérard Cossé, Les Siècles. Et ce sera la veille de l'anniversaire de Mozart puisque ce sera le 26 janvier.
Voilà, beaucoup d'anniversaires, Berlioz, Mozart. Et vous serez présent, François-Xavier Roth, pour rendre hommage et consacrer vos compositeurs, ceux que vous chérissez. Merci beaucoup à vous d'être passé autour de cette grande table. Merci.